M. Les paractualités. Bonjour et bienvenue aux paractualités. Hélène Denis avec vous en ce mardi 1er mai 2018. Et en manchette aujourd'hui, Génome Québec, près de 21 millions de dollars pour favoriser l'essor de la génomique au Québec. 10 000 dollars à gagner pour aider Action Intégration en déficience intellectuelle. Les étudiants canadiens auront accès à de nouveaux stages qui renforceront leurs compétences et leur employabilité. En entrevue, je reçois Stephen Cunham, professeur titulaire d'une chaire de recherche sur le métabolisme cérébral de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, qui nous parlera de l'état de l'avancement des recherches sur la maladie d'Alzheimer, et Inès Boucrab, animatrice intervenante de l'Association sportive des aveugles du Québec. Génome Québec, à l'occasion du jour de l'ADN qui commémore la découverte en avril 1953 de la structure en double hélice de l'ADN par les chercheurs James Watson et Francis Crick, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une contribution financière totalisant près de 21 millions de dollars à l'organisme Génome Québec pour favoriser l'essor du domaine de la génomique au Québec. L'aide financière gouvernementale comprendra une somme de 4 538 000 $ visant à appuyer l'organisme dans la poursuite de ses activités, le soutien à des plateformes de recherche en génomique et le cofinancement d'activités de recherche. Par ailleurs, un montant de 16 429 478 est destiné à soutenir la réalisation de 4 projets de recherche québécois, de 2 projets de recherche en code MANDE, entre le Québec et la Colombie-Britannique, et de 2 projets de recherche ontariens réalisés en collaboration avec un chercheur québécois. Ces projets ont été sélectionnés au terme de l'appel de projets de Génome Canada lancé en janvier 2017 dans le cadre du programme Projets de recherche appliqués à grande échelle et visant les domaines des soins de santé personnalisés et de la médecine de précision. Soulignons que ce dernier montant est issu d'une contribution financière totalisant 40 millions de dollars, laquelle a été accordée à Génome Québec pour le soutien à la recherche dans le secteur des soins de santé personnalisés. Soccer Québec s'attaque aux commotions cérébrales, retrait immédiat des joueurs à risque, utilisation d'un ballon plus mou pour l'entraînement des moins de 12 ans, programme d'exercice adapté. La Fédération de soccer du Québec, FSQ, procédera à une série de changements importants dès cet automne pour prévenir les commotions cérébrales sur les terrains de la province. Les mesures qui entreront en vigueur d'ici la fin de l'année font suite aux recommandations d'un comité de spécialistes de la santé mandaté par la FSQ, pour se pencher sur la question des commotions cérébrales. Le rapport de ce comité, qui a été adopté en bloc par le Conseil d'administration de la Fédération de soccer du Québec à la fin du mois de mars, a été rendu public mercredi. La Fédération est unique en son genre dans la mesure où il est plutôt rare d'accueillir des professionnels de la santé pour faire des recommandations concernant la sécurité de son sport, affirme le neurologue Stéphane Ledoux, qui est membre du Conseil médical de la FSQ. Les recommandations qui seront suivies par la FSQ visent surtout à prévenir les commotions cérébrales. Une commotion cérébrale, c'est une commotion de trop, parce que malheureusement, nous sommes actuellement très limités pour traiter ce type de blessure. Au cours de l'automne, la Fédération modifiera ses règlements de sécurité pour mettre l'accent sur la détection des commotions cérébrales. Tout joueur ayant possiblement subi une commotion cérébrale devra être retiré d'un match ou d'une séance d'entraînement. Ce joueur devra attendre 6 jours avant de reprendre l'entraînement, à moins d'un avis médical contraire. Le GTCC a recommandé la mise en place d'un registre provincial des commotions cérébrales, mais rien n'a été fait depuis, déplore le Dr Ledoux. Et pour parler de l'état de l'avancement des recherches sur la maladie d'Alzheimer, j'ai au bout du fil M. Stephen Cunham. J'espère que je prononce bien. Bonjour, M. Cunham.
Oui, bonjour, madame. Oui, vous prononcez bien mon nom.
Oui, ben, tant mieux, tant mieux. Alors, vous êtes professeur titulaire d'une chaire de recherche sur le métabolisme cérébral et la cognition au cours du vieillissement de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alors, bienvenue. Oui. Merci d'être avec nous. Monsieur Cunham, où en est l'état de la recherche sur cette terrible maladie?
Ben, c'est une grande question. Alors, vous avez combien de temps pour ma réponse?
On a 24 heures. Non, on a 6 minutes.
Non. En fait, je pense qu'il y a une grande déception en termes de développement de médicaments.
Oui.
Parce qu'il y avait des énormes investissements, puis on n'a rien changé depuis 25 ans.
Ah, oui.
Alors, les médicaments disponibles sont toujours peu efficaces et un peu vieux. Mais l'espoir, le rayon d'espoir dans toute cette histoire-là, c'est que les approches en prévention ont de plus en plus d'importance, entre autres parce qu'on n'a pas de choix, entre autres parce que les résultats sont de plus en plus concluants.
Mm-hmm.
Et pour protéger contre certaines maladies cardiovasculaires, même contre le cancer, l'hypertension, l'obésité, ben, faut agir en prévention. Et l'Alzheimer est comme une conséquence de ces maladies dites métaboliques, des problèmes de gestion du carburant au cerveau, dans le corps, le glucose, l'insuline. Tous ces facteurs-là qui jouent dans les maladies chroniques jouent aussi sur l'Alzheimer. Et on voit que si on contrôle mieux ces problèmes-là, ben on va ralentir la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est le rayon d'espoir puis la bonne nouvelle, si vous voulez, là-dedans.
Oui, on est loin d'une solution, mais il y a quand même un peu d'espoir.
Oui, il n'y aura pas de solution miracle. Je pense qu'il faut s'entendre là-dessus, mais peut-être qu'il y aura un médicament un jour qui pourrait agir mieux si on contrôle mieux les facteurs de risque, si on fait plus d'activité physique, un peu de stimulation cognitive, une meilleure nutrition, un meilleur contrôle de notre glucose, notre insuline, notre obésité dans le fond, ça se peut que ces médicaments-là seront plus efficaces. C'est à voir, mais peut-être une combinaison d'approches pourrait être bénéfique aussi.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne atteinte de cette maladie?
Ben, c'est un peu comme le plomberie dans la maison. Avec le temps, ça va dégrader tranquillement. Puis alors, le débit sanguin va diminuer. Le cerveau va rapetisser tranquillement. Veut pas, même les gens avec un très bon état de cognition, le cerveau va quand même rapetisser la partie de la matière grise qui fait tous les calculs puis tout l'apprentissage et gère beaucoup de l'activité du cerveau va émincir, est-ce qu'on dit?
Amincir, oui, se rétrécir.
Oui. Alors, il y a certaines choses qui vont changer, veut pas.
À partir de quel âge environ?
Je pense qu'on peut dire même l'âge de 30 à 40 ans.
Là, ah oui?
Je pense que le volume du cerveau est maximal dans la trentaine, mais ça se peut que je me trompe peut-être d'une décade. Mais c'est sûr que c'est déjà parti dans la soixantaine. C'est certain, on le voit dans nos études, mais c'est connu depuis quelque temps.
Oui, oui. Puis on parle aussi de plus en plus, me semble, d'Alzheimer précoce.
L'Alzheimer précoce existe et c'est certain, mais la plupart des gens qui vont subir l'Alzheimer, c'est autour de 65 à 70 ans et c'est comme des insultes cumulatives sur le corps qui vont amener à ce déclin-là. Mais si on est malchanceux avec une certaine forme de mutation ou prédisposition génétique, c'est sûr que ça arrive beaucoup plus tôt.
Mm-hmm.
Mais c'est plutôt rare. C'est très rare, en fait, surtout au Canada, en Amérique du Nord, mais il y a des endroits dans le monde où est-ce qu'il y en a plus de monde avec cette forme-là. Mais on peut pas se cacher derrière notre génétique pour dire que je peux rien faire ou je suis bien protégé parce que j'ai pas le APOE4, par exemple. On est tous susceptibles à l'Alzheimer à cause de notre mode de vie, principalement.
Oui. Est-ce que c'est long avant de diagnostiquer une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer? Parce que souvent, on entend des gens qui disent « bon, j'ai un trou de mémoire, je dois avoir l'Alzheimer », mais c'est pas nécessairement ça.
Oui, alors la définition a changé un peu avec le temps. Les efforts de mieux diagnostiquer sont bien présents dans le système de la santé aujourd'hui avec le plan Alzheimer au Québec. Donc, on est plus au courant de cette maladie. Le diagnostic est peut-être un peu plus efficace. Des fois, certaines vont décliner plus rapidement que d'autres. Alors, oui, c'est plus difficile chez la personne qui décline plus rapidement, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle parce qu'on va perdre notre autonomie plus rapidement aussi.
Mm-hmm. Et en terminant, M. Kunin, est-ce qu'on peut prévenir l'Alzheimer? Vous parliez, oui, de faire attention à sa santé, à ce qu'on mange, en faisant de l'exercice. Est-ce qu'on peut faire plus que cela?
Je pense qu'on peut faire plus comme population, comme société. On peut faire beaucoup plus. Prévenir, c'est un grand mot. C'est un peu comme noir et blanc. Il n'y aura pas de prévention absolue.
Oui.
Mais on peut le pallier, on peut le ralentir, c'est certain, avec la prévention. Un peu d'activité physique, de manger un petit peu moins, ou au moins d'essayer de contrôler notre poids un petit peu mieux, de rester en contact avec nos proches, nos voisins, de faire des activités sociales. C'est plus mondial chez les personnes âgées qui vont perdre un époux ou une épouse, devient très isolé très rapidement et c'est mortel. Comme une hanche cassée, par exemple, une commotion, une chute, ces facteurs-là médicaux vont jouer beaucoup dans la vitesse que cette maladie nous rattrape. Alors, mm-hmm. de rester en plus en santé avec un petit peu d'activité physique, on garde mieux l'équilibre, on est plus résistant. Et ça va protéger le cerveau comme le reste du corps.
Oui, oui, rester en contact aussi avec les humains, puis se stimuler intellectuellement aussi. J'imagine que ça aide aussi, faire de la lecture, des mots croisés, etc.
C'est très important. Mais l'activité, pour moi, la clé à tout ça, c'est l'activité physique.
D'accord.
Et pas d'être fou non plus, juste d'essayer de stationner un petit peu plus loin dans le stationnement, de prendre les marches un étage, deux étages, trois étages, dépendant de notre capacité, et de s'obliger, de discipliner un peu, de faire un petit peu plus d'activité physique à tous les âges, ça va aider.
Alors, M. Stephen Kunin, merci beaucoup pour ces conseils. C'est aussi votre temps, une entrevue très intéressante. Professeur titulaire d'une chaire de recherche sur le métabolisme cérébral et la cognition au cours du vieillissement de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. On vous laisse travailler, c'est important.
Merci.
Au plaisir.
Bonne journée.
Vous aussi. Bloc régional, Action intégration en déficience intellectuelle, AIDI ou EDI, rappelle aux résidents de Brossard et des environs que plusieurs billets sont disponibles pour son tirage bénéfice dont les profits contribueront aux opérations de la maison Jolie Vie. Grâce à ce tirage, Action intégration en déficience intellectuelle s'offre une source de financement distincte tout en présentant une méthode ludique et vivante de contribuer à la cause de l'organisme. Cette campagne de financement permet de dégager quelque 12 000 $. Sylvie Léger, directrice de l'organisme, mentionne que les 2 400 billets en circulation lors du tirage l'an dernier se sont écoulés très rapidement, si bien qu'on a eu d'autres choix que de relancer l'opération. Par ailleurs, la gagnante de l'an dernier a profité de l'occasion pour remettre un don supplémentaire à Action intégration en déficience intellectuelle. Le tirage se tiendra le 18 mai. Les billets sont en vente au coût de 10 $. Il est possible de s'en procurer au bureau de l'organisme situé au 6180 rue Agathe à Brossard. Sur le site charlebourgexpress.com, situé sur la rue du Rhône à Charlebourg, la maison Les Merveilles, Suzanne Vachon est la première du genre à Québec à accueillir des enfants polyhandicapés afin qu'ils reçoivent des soins spécifiques. Cette résidence, qui appartenait à la famille Dallaire, porte aujourd'hui ce nom en l'honneur de Suzanne Vachon, conjointe de feu M. Jules Dallaire, fondateur de Cominard. Au total, 13 chambres minutieusement adaptées sont mises à la disposition de jeunes sévèrement handicapés ou gravement malades. L'établissement, qui aura nécessité plus de 5 millions pour son aménagement, offre à ces jeunes et à leurs parents des séjours de répit et de soins. Un montant de 600 000 $ sera versé annuellement par la Fondation Famille Jules Dallaire pour l'entretien et la gestion de la maison. De son côté, le CIU3S de la Capitale-Nationale offre un financement de 166 660 $ par lit pour la première année. Mère d'une fille handicapée morte en 2005 à l'âge de 12 ans, Sandra Lambert est fondatrice et directrice générale de l'organisme Laura Les Merveilles. Depuis 10 ans, son équipe a accompagné quelques 150 familles. Je joins maintenant Inès Boucrabe, animatrice intervenante de l'Association sportive des aveugles du Québec, ASAC, pour parler des résultats des championnats canadiens de goalball et aussi du défi DMLA pour dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bonjour, Madame Boucrabe.
Bonjour.
Alors, parlez-nous pour commencer des résultats des championnats canadiens de goalball.
Oui, bien sûr. Donc, l'équipe du Québec était composée de Josué Coudé, de Simon Tremblay de Québec, de Bruno Haché et de Rakiboul Karim de Montréal. Ils ont remporté 2 de leurs 5 matchs lors du tournoi à la ronde qui leur a permis ainsi de passer en demi-finale, qu'ils ont perdu en donnant une très belle performance quand même contre les champions de cette année, la Colombie-Britannique.
Mm-hmm. Mais tant mieux, au moins demi-finale, c'est quand même pas trop honteux.
Oui, non, c'est ça. Pour la finale de bronze, ils ont perdu contre la Nouvelle-Écosse. Ils ont terminé en 4e position, mais on peut voir une grande amélioration parce que l'année passée, ils terminaient en 5e place.
Bon, tant mieux.
C'est ça, ben oui. Puis dans le fond, pour l'athlète Nancy Morin de Longueuil, qui jouait dans l'équipe East-West, composée de 2 jeunes athlètes de l'Alberta, malgré le fait qu'elles aient tout perdu leur match de tournoi à la ronde et leur demi-finale, elles ont remporté la médaille de bronze contre l'équipe de l'Alberta.
Bravo.
Tout au long de la compétition, elles se sont améliorées d'une partie à l'autre pour solidifier leur défense. Fait qu'on peut voir qu'elle a vraiment été un bon mentor pour les 2 nouvelles joueuses.
C'est encourageant parce qu'il y a des programmes un petit peu partout, si j'ai bien suivi.
Oui, exactement.
Et Inès, le 10 juin prochain va avoir lieu la 5e édition du défi DMLA à la salle. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce défi?
Oui, effectivement, la Fondation Pierre Brisebois organise le 10 juin au Parc des Rapides à la salle le défi DMLA.
Ah, tellement beau cet endroit.
Vraiment beau, oui. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. En fait, le défi, c'est la première source, elle est la première source de leurs revenus. Mm-hmm. Les frais d'inscription à cette course et les dons recueillis serviront à la recherche sur la dégénérescence maculaire. Donc, c'est pas simplement une activité ou un loisir comme un autre. C'est une mobilisation sociale et citoyenne dans le but d'aider les gens qui souffrent du DMLA et la maladie de Stargardt.
Et donc, qui peut participer à cette course?
C'est une course inclusive. Dans le fond, tout le monde peut s'inscrire et participer. Certains de nos athlètes seront présents aussi. Les personnes ayant une déficience visuelle qui désirent avoir un coureur guide peuvent simplement me contacter sur mon courriel ou mon téléphone. Si vous voulez, je peux vous donner mon courriel puis mon téléphone.
Bien, avec plaisir.
Donc, mon courriel, c'est animation@sportaveugle2s.qc.ca. Et mon numéro de téléphone, c'est le 514-252-3178, poste 3716. Donc, dans le fond, ils peuvent juste m'appeler, puis je vais leur trouver un coureur.
Et comment ça se passe? Bon, parce que le coureur est accompagné d'un coureur guide. Qui donne le signal de départ?
Bien, en fait, avant la course, les coureurs ayant une déficience visuelle, ils doivent se pratiquer avec leur guide les semaines avant la course. Fait que, dans le fond, Ils s'arrangent les deux pour débuter la course. Mm-hmm. Mais pendant la course, le guide est responsable de fournir les indications verbales. Donc, dans le fond, il va dire les côtés à venir, les tournants, les trottoirs, le temps. Puis, le coureur, il est tout le temps, le guide, je veux dire, il est tout le temps en avant du coureur. Et, dans le fond, le coureur, il le tient par le coude ou à l'intérieur du bras. Fait qu'il le suit.
Et j'imagine que tout le monde est invité à assister à cette course. Si on n'y participe pas, on peut aller encourager les coureurs?
Oui, effectivement. C'est oui. Bien ça.
Ça commence à quelle heure?
Dans le fond, ça commence à 8h30.
8h30 le matin?
Ouais, oui, 8h30, c'est le premier départ pour le 15 km puis le 30. Mm-hmm. À 9h, c'est le 5 km puis le 10 km. Mm-hmm. Puis à 10h, c'est le 1 km.
Et la date à retenir, le 10 juin.
Et, exactement.
J'ai reçu un communiqué me disant qu'il y avait une course lumière organisée au profit de la SAC. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, bien sûr. En fait, la course lumière, c'est ça. Dans le fond, le défi des MLA, on invite nos athlètes puis aussi les coureurs à se pratiquer pour cette course lumière. C'est le 8 septembre. Puis tout le monde peut s'inscrire, puis tout le monde peut venir courir.
Parfait. Donc, c'est au Parc Maisonneuve de la Ville de Montréal. Mais concernant
exactement.
Le défi des MLA, c'est à Ville-la-Salle. Et si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous pouvez nous redonner vos coordonnées, Inès?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, dans le fond, alors, mon courriel, ça va être animation, à commercial, sport avec un S, aveugle avec un S, .qc.ca.
Mm-hmm.
Ça, c'est mon courriel.
Oui.
Et mon numéro de téléphone, c'est le 514-252-3178 au poste 3716.
Inès Boucrab, animatrice intervenante de l'Association sportive des aveugles du Québec, merci. Puis, on va penser à vous. Peut-être qu'on ira vous voir lors de la 5e édition du défi DMLA le 10 juin.
Oui, parfait. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bloc national-international, dans le cadre d'un projet pilote, les collèges et les écoles polytechniques pourront participer à un programme d'apprentissage intégré au milieu de travail à la portée nouvellement élargie. Lorsque les étudiants des collèges et des écoles polytechniques ont l'occasion d'apprendre dans un milieu de travail réel, ils acquièrent les habiletés pratiques et nouent des liens interpersonnels qui leur ouvrent la voie vers les bons emplois de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, lors d'une allocution prononcée au Congrès annuel de Collèges et Instituts Canada à Victoria, Colombie-Britannique, la secrétaire parlementaire pour les sciences, Kate Young, a annoncé le lancement d'un projet pilote qui donnera aux collèges et aux écoles polytechniques l'occasion de collaborer avec des entreprises et des organismes sans but lucratif pour favoriser l'intégration d'étudiants au marché du travail. Le nouveau programme fait fond sur une initiative de MITAC déjà en cours, initiative qui a fait ses preuves en aidant des étudiants à acquérir des compétences et à perfectionner leur formation. D'ailleurs, l'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'engagement pris dans le budget fédéral de l'an dernier d'allouer 221 millions de dollars à MITAC sur 5 ans, jusqu'en 2020-2021, pour la création de 10 000 stages rémunérés par année, s'adressant à des étudiants canadiens. Ces stages renforcent l'employabilité des étudiants en leur fournissant de la formation en emploi ainsi que de l'expérience de travail. Dans 9mois.fr, Christa Couture est une chanteuse qui a été amputée d'une jambe. Désormais enceinte, elle a voulu réaliser des photos de grossesse pour montrer que même avec un handicap, on peut être jolie. Cette chanteuse canadienne a réalisé un shooting absolument magnifique qui, espère-t-elle, décomplexera les femmes porteuses d'un handicap. La future mère s'émerveillait devant les clichés de femmes attendant un enfant en rêvant d'en faire à son tour. Mais elle ne voyait aucune femme handicapée dans ses photos. Alors, elle s'est lancée et a décidé de réaliser elle aussi un photoshoot de grossesse malgré son handicap. Christa Couture a été amputée d'une jambe juste au-dessus du genou il y a 25 ans. Elle a eu du mal à accepter son handicap et à se trouver belle, mais c'est maintenant chose faite et ses clichés de maternité l'ont bien aidée. Ainsi, elle montre fièrement son baby bump et sa prothèse fleurie. Pour certains clichés, elle a même osé retirer sa prothèse. Dans une tribune publiée dans CBC Parents, elle raconte la séance. « Ce jour-là, j'étais nerveuse. Ce n'était pas la première fois que je me déshabillais presque entièrement devant un appareil photo. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas la première fois que je montrais ma prothèse de jambe. Mais c'était la première fois que j'enlevais ma prothèse pour des photos. » La future maman raconte avoir eu peur que les photos ne soient pas jolies. Et pourtant, ça a été l'inverse. C'est incroyable. C'est ce que je voulais tellement voir. C'est un corps fort, charmant et oui, différent. Un corps qui a survécu au cancer, qui a été guéri du cancer en perdant sa jambe. Très fière du résultat de la séance photo, Christa Couture a publié les clichés sur son compte Instagram pour montrer que toutes les femmes sont belles et capables de devenir mères. Projet de recherche pour la création d'un spectacle. Votre avis est sollicité. Nous sommes une équipe d'artistes qui travaille présentement à la création d'un spectacle pour des spectateurs non-voyants. Nous recherchons des personnes vivant en situation de handicap visuel qui seraient disponibles pour venir assister à une répétition le 2 mai. C'est demain, de 13h à 14h30. La présentation aura lieu à Montréal, au 3680 rue Jeanne-Mance, bureau 103. L'idée est de tester auprès du public le matériel que nous avons développé afin de recueillir ses impressions. La chaîne de télévision Ami Télé sera présente pour documenter le travail de l'équipe. Si vous êtes intéressé, contactez Audrey-Anne Bouchard par téléphone au 438-395-8793, 438-395-8793 ou par courriel à audreyannebouchard@gmail.com. C'est tout pour les paractualités de ce premier jour de mai. Un grand merci à mes invités Inès Boucrab et Stephen Kinnan. Merci aussi à mon équipe Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute et j'en profite aussi pour remercier François Brodeur qui était au micro hier. Merci François d'avoir tenu le phare. Alors, à demain, tous.